Bienvenue dans La Voix au chapitre, le podcast médiéval et littéraire animé par Marielle Avesco et Anaïs Guiraud. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode. Bonsoir Anaïs.
Bonsoir Mariella.
Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode.
Moi aussi.
On
je
va
trouve
bien
que c'est
se
un épisode un peu différent. Voilà,
c'est ça. On va bien se marrer. Aujourd'hui, on vous a concocté un petit épisode un petit peu fun, un petit peu, voilà. On va sortir un peu des choses classiques, quoi, et des choses informatives. Là, on va du coup, on se fait un petit épisode un petit peu ludique, en reprenant du coup la trend assez à la mode sur les réseaux sociaux. Tu préfères ça ou ça, mais version
Exactement.
médiévale.
Tout à
Voilà.
fait.
Donc, on va
Tout
se.
à fait, tout à fait.
Pour les auditeurs qui nous écoutent, nous sommes préparés, Anaïs et moi, une petite fiche de tu préfères. Alors moi, j'en ai préparé pour Anaïs, elle m'a préparé des tu préfères. Et du coup, on va se lancer, on va voir ce que ça donne. Je ne
Voilà,
sais pas ce
il
qu'elle m'a
faut.
réservé, elle ne sait pas
Voilà.
ce que je lui ai réservé, mais
Je crois
voilà.
que c'est ça qu'il faut dire, c'est que c'est de la totale
Voilà,
improvisation. Donc,
total
on ne
impro, on
garantit
va voir.
pas, pour le coup, forcément la
Le
curacy, comme diraient
déroulé
nos Anglais.
totalement fluide et smooth, mais bon.
Exactement.
En même temps, ça peut être rigolo. Donc, le but, c'est de
J'espère.
s'amuser, justement, et de
Exactement.
passer un bon moment. Écoute, qui se lance?
Comme tu veux.
Eh bien, écoute, allez, je te lance une
Allez.
première. Dis-moi, Anaïs, est-ce que tu préfères être invitée à la table de Philippe le Bel ou à la table de Saint-Louis?
Ah, ça c'est difficile comme question. Alors, Saint-Louis étant très pieux et je crois pas trop porté sur la boisson et quand même la bonne chère, je crois que j'aurais tendance à préférer Philippe le Bel et ne serait-ce que pour contempler cette cour qui devait être vraiment, vraiment quelque chose d'extraordinaire à voir. Il y avait vraiment ce côté roi de fer, hein, moi que j'adore chez Philippe le Bel, qui reste
Alors
un des
Philippe le
rois
Bel,
emblématiques. Hein.
pour nous, on le replace un peu. Il
Ouais,
est, c'est un,
petit-fils de Saint-Louis, donc, hein, de toute
voilà,
façon.
c'est le petit-fils, c'est le, oui, petit-fils de Saint-Louis.
Petit-fils de Saint-Louis.
Il est du coup à quel siècle?
Donc, du coup, c'est 14e siècle, si ma
14e
mémoire est
siècle.
bonne. Et effectivement, c'est les grands moments de l'unification de la France. Hein. Là, c'est bon, le Languedoc s'est plié. Il hérite d'un royaume qui est déjà bien unifié. Il est devenu. Enfin, il a vraiment réformé lui aussi beaucoup le royaume. Et il est devenu un des rois les plus puissants d'Europe à l'époque, même peut-être le plus puissant. Il réussit le tour de force de ramener la papauté également en France, hein, en Avignon. Bon, ça donnera un des épisodes de crise de la religion catholique qui est le grand schisme, mais c'est quand même une force, un tour de force très important puisqu'il a réussi à faire aussi en sorte que le pape soit vraiment un de ses alliés, un de ses amis. Il est resté célèbre pour l'arrestation des Templiers. Bon, bah
Voilà,
oui, ça c'est un petit
c'est
peu,
quand même. Il
c'est
faudra
un petit
qu'on y
peu son
consacre un
côté
épisode,
noir. Ah oui, Philippe le Bel, c'est
mais
obligé.
c'est quand même lui qui a fait
Philippe
tomber
le
les
Bel et ses
Templiers, ouais.
enfants, hein, tous ses enfants, puisqu'il y a vraiment des très grosses crises de famille qui vont traverser un petit peu son règne. Hein, avec, bon, il a des fils qui sont un petit peu pas très malins. Hein, c'est ce qu'on pourra dire après de Louis X, hein, le hutin, hein, qui est, ben voilà, qui est le hutin. Donc, c'est pas forcément
Oui,
le couteau le plus aiguisé du tiroir, comme on dit.
c'est ça,
Et
un
puis,
peu.
voilà, il a des belles-filles qui ont la cuisse légère. Il y a l'épisode de la tour de Nesle où il est obligé de les enfermer parce que, bon, voilà, elles ont fricoté avec un tel, et puis ça commence à se savoir. Voilà, il n'a pas vraiment quand même de bol avec sa famille, mais de l'autre côté, en politique, il est extrêmement aiguisé, il est extrêmement fort, quoi. Il n'y a pas de mots, hein. C'est le roi de fer,
Parce
voilà, c'est
que je
vraiment lui.
sais que au fur et à mesure, enfin depuis qu'on se connaît, je sais que tu admires particulièrement ce roi. Je me demandais du coup pourquoi ce roi te plaît particulièrement, ce Philippe.
Philippe, vraiment, c'est sa stature. C'est vraiment
Ouais.
sa stature, sa position politique contre vents et marées un petit peu, et son côté très malin, très astucieux. Moi, je reste aussi sur un des épisodes très, très marquants de son règne, en dehors de l'arrestation des Templiers, c'est l'attentat d'Anniani. C'est la seule personne à avoir envoyé un émissaire pour gifler le pape. Voilà, moi, je trouve que ça, c'est tellement emblématique, et je trouve ça mais tellement magnifique, quelque part, dans le côté honneur chevaleresque, etc. Voilà, bon, tu m'as gonflé, je vais te mettre une tarte, mais j'y vais pas moi-même, parce que je m'abaisse pas quand même à ces choses-là. Donc voilà, c'est vraiment ce côté très, très, très politique, moi, que j'aime chez
C'est
Philippe
un
le Bel, alors que
stratège.
chez Saint-Louis, voilà, c'est un très grand stratège politique, alors que chez Saint-Louis, oui, c'est plus la figure du roi unificateur, du roi réformateur, même si j'ai toujours, bah, tu le sais, une relation un peu aigre-douce avec Mont-Saint-Louis, hein, puisque c'est le conquérant du Languedoc. Il a fini le travail de son papa et ça s'est pas bien terminé. Donc voilà. Mais non, j'irai quand même manger chez Philippe,
Ben, je me doutais de ta réponse. En même temps, Saint-Louis,
ouais.
il n'est pas réputé pour être un Guéluron et un
Voilà.
voilà. Donc, je pense que ça doit être plus fun chez Philippe le Bel aussi.
Tout à fait.
Voilà. Ok. Alors, du coup,
Eh
qu'est-ce que
bien,
tu
moi, j'ai un
réserves?
petit peu quelque chose de similaire, tu vas voir, pour commencer. Donc,
Ah.
est-ce que tu préfères, Mariella, être moine à Cluny et rencontrer Bernard de Clairvaux, ou devenir Trobéritz dans le Languedoc, mais sous Simon de Montfort?
Ah. Bon, eh bien écoute, je vais quand même choisir Trobéritz parce que c'est quand même une fonction. Alors, pour rappeler aux gens, Trobéritz, c'est la version féminine, on va dire, du troubadour.
Exactement.
C'est voilà, les femmes qui chantent et qui créent leurs chansons. Et c'est quand même une position qui me, voilà, enfin, qui me fascine en fait. Qui me fascine et une fonction que j'aurais aimé exercer, moi, si j'avais été au Moyen-Âge, en tout cas. Donc, même si c'est sous Simon de Montfort, je préfère quand même être Trobéritz. Parce que voilà. Et d'ailleurs, mon petit roman, bah, tu verras, hein, si tu me fais mon alpha lecture,
Oui.
mais voilà. J'aime
Oui,
beaucoup.
il y a ce côté très, très fin amant aussi, voilà,
Ben oui.
très chanson de geste, très. Oui. Alors, c'est vrai que ce n'est pas forcément le meilleur moment pour être
Ben, la
Trobéritz
meilleure
dans le
période.
Languedoc, hein, la meilleure période. Mais en tout cas, oui, je me doutais que tu choisirais quand même peut-être ça. Mais quand même, rencontrer le grand Bernard, le Saint Bernard,
Quand
ah,
même.
ça pouvait être aussi attirant.
Mais tu vois, j'avais une question plutôt similaire aussi quand même, hein. Mais bon, bah, du coup, je vais enchaîner avec. Est-ce que tu préfères être recluse ou entrer au couvent?
La limite est mince. La limite est mince,
Ben.
mais bon, en replaçant dans le contexte de l'époque, donc les recluses, c'est effectivement des femmes qui entrent en réclusion, donc qui sont pas forcément attachées d'ailleurs à un ordre monastique, mais qui s'enferment
Oui.
pour généralement le bien de la communauté et qui sont quand même très respectées. Donc moi, j'avais pas mal étudié le cas de la recluse de Saint-Flour et qui tient un petit rôle dans les Mirages de Terre Sainte. Et
Oui.
c'est vrai que cette recluse a son reclusoir qui est sur un pont, donc c'est très particulier. Il y a là-dessous une résurgence de culte païen, hein, à ce niveau-là, parce que c'est par ses prières, elle empêche les inondations de rentrer dans les bas quartiers de la cité de Saint-Flour. Donc elle a un peu ce rôle-là.
Donc, elle est recluse dans le pont.
Elle est recluse sur une espèce de petit reclusoir. Donc, les reclusoirs sont des petites pièces très, très petites, hein. Les murs, il faut pouvoir écarter les bras et se tenir debout. Voilà, c'est ça la taille du réclusoir, hein.
Oh là
Donc,
là. Donc,
avec
faut
une
s'imaginer que ces
fenestrelle.
femmes s'emmurent en fait.
Ces femmes sans
Elles
mur, totalement. Oui,
s'enferment, elles
oui.
s'emmurent
Elles
pour
se consacrent
prier.
à
Du coup, elles
Dieu,
se
voilà,
consacrent à
pour
la
prier.
prière.
Exactement. Et elles ont juste ce qu'on appelle une fenestrelle, donc une toute petite fenêtre grillagée pour qu'on leur passe à manger, éventuellement du rechange, et qu'on vide les seaux
Bah oui,
d'hygiène.
quand même.
Le réclusoir est scellé totalement à l'entrée de la recluse et il n'est ouvert qu'à sa mort, hein, où là, tout est
Donc,
nettoyé
en fait,
et
elles
on
passent
remet une nouvelle
vraiment,
jeune femme.
elles dédient leur vie à
Ouais.
ça, quoi.
Alors, une vie
Et
assez
donc,
courte,
ouais.
hein, environ 5 ans. en moyenne
Ah
pour les recluses.
ouais.
Donc ouais, je crois quand même que je préférerais entrer au couvent. Alors si ça pouvait être un couvent un peu sympa, comme des petites Ursulines ou voilà, ou alors carrément aller à Bingen. Alors là, du coup, je dirais oui.
Ben oui, je me doutais un peu de ta réponse parce que quand même la vie au couvent, allez, enfin voilà, c'est quand même un peu plus ouvert. Alors tout dépend effectivement de l'ordre,
De l'ordre.
de l'ordre, mais bon, c'est quand même pas la vie d'une recluse.
Non.
Entre quatre murs, tu peux travailler, tu peux, voilà, tu marches,
C'est.
tu chantes, tu pries,
Ouais,
tu.
ouais, ouais. À la limite, j'aurais préféré le béguinage, comme ça, moi, j'étais
Le
encore plus libre.
béguinage. Okay. Alors, quel est le béguinage pour ceux qui nous écoutent? C'est vrai que le béguinage, c'est aussi quelque chose d'intéressant. C'est toi qui m'avais parlé de ça d'ailleurs, je
Les
crois,
béguines.
lors d'un. Et j'avais creusé, j'étais même tombée sur un reportage assez sympa et trouvé ça hyper intéressant.
Oui, c'est très 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 sympa. Je crois que c'est Anne Brennon qui a écrit un ouvrage qui s'appelle La nuit des béguines, qui est très 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 bien. Et j'avais lu, alors là par contre c'est de la fiction, mais c'est toujours très sympa, c'est Karen Maitland qui a écrit Les âges sombres. Bon, alors là, le titre en français, je ne suis pas sûre que c'était le titre en anglais, où les béguines tiennent un rôle. C'est les premiers béguinages dans le nord de l'Angleterre. Elles s'installent. Donc, c'est un ordre de femmes, mais qui n'est pas rattaché à un ordre religieux. Elles ne sont pas. Alors, c'est né plutôt dans les Flandres, dans le nord de l'Europe.
C'est ça.
Et ce
Moi, j'avais
sont
vu.
vraiment des communautés de femmes qui se réunissent entre elles, effectivement, pour parce que déjà, elles trouvent ça sympa. Et puis ensuite, elles n'ont pas forcément envie de se marier. C'est parfois des veuves, c'est parfois des cadettes de famille qui n'ont pas envie de se plier au mariage. Et donc, elles peuvent entrer en béguinage. Alors, elles sont quand même patronnées par l'église du coin ou le curé du coin, hein. Elles ne sont pas
Ouais,
laissées dans
faudrait
la
quand même pas les
nature.
laisser,
Voilà, il ne faut pas
hein?
exagérer. Mais elles sont pas, c'est pas un ordre religieux. Tu
Ouais,
n'entres
c'est
pas
ça.
en religion. Et d'ailleurs, les béguines peuvent tout à fait ne pas habiter le béguinage. Donc, les béguinages sont des espèces de grands, comment on peut dire, des grandes résidences quelque
Ouais,
part,
c'est ça,
avec
d'accord.
des très 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 beaux exemples de béguinage aux Pays-Bas et en Belgique. Et donc, c'est une communauté. Donc, on peut vivre au béguinage, on peut habiter là si on n'a pas de maison. Mais par contre, si on a une famille et si on a une maison, on peut tout à fait venir au béguinage, travailler dans la journée et partir le soir, rentrer chez soi. Ça, c'est tout à fait autorisé. Au couvent, quand tu entres dans un ordre, tu vis au couvent,
Oui,
tu dors au couvent,
tu
tu
veux, oui,
manges au
c'est ça,
couvent,
complètement.
voilà, hein, tu
Tu
suis
vis
la
une vie,
totalité.
t'es plus dans le siècle, en fait, hein, c'est une vie, comment on appelle ça?
Et puis tu es consacrée à Dieu,
Oui,
hein,
c'est ça.
à Bingen, quand elle a fondé son propre monastère, son propre couvent à Bingen. Hildegarde, elle faisait même porter un anel en or à ses filles, parce que c'était les fiancées du Christ.
Ben
Donc
ouais,
là,
c'est
c'est
ça. Ben
vraiment la totalité. Mais au moins, on peut chanter, on peut faire quelque chose. Et effectivement, la
Ben,
vie de
c'est un peu
recluse,
plus
même
que la
de
recluse, quoi.
recluse,
La
ben,
recluse,
même si
c'est.
pourtant, on a du mal à le concevoir aujourd'hui,
Oui,
forcément,
ça
avec
paraît
nos
complètement
idées,
inconcevable.
mais c'est une figure qui est extrêmement répandue au Moyen-Âge. Il y a des recluses dans toutes les villes, voire plusieurs recluses dans les très grandes villes comme
Et
Lyon ou Paris,
respectée.
hein.
Mais qu'est-ce
Très
qui peut faire
respectée.
qu'une femme choisisse la vie de recluse?
Faut savoir que quand elles sont enfermées, leur famille touche beaucoup d'argent. On fait des grandes fêtes, on fait des offrandes en quelque sorte, hein. Donc pour la famille, c'est une très grande reconnaissance. Ça peut vraiment être la solution aussi pour des femmes qui n'ont pas vocation à se marier, qui n'ont pas envie d'avoir des enfants, qui une femme célibataire au Moyen-Âge, ça, à l'époque médiévale en général, ça reste quand même très mal vu. Quand on est veuve, à moins d'avoir vraiment récupéré de son veuvage une dot assez conséquente pour
Ben
pouvoir
après,
continuer à
c'est
vivre,
dur de vivre, hein.
on peut pas. Donc oui, donc je pense qu'il y a beaucoup de femmes par nécessité qui ont embrassé la carrière de recluse, même si c'est effectivement en moyenne une durée de vie de 5 ans après la mise en réclusion. C'est quelque chose qu'aujourd'hui on a du mal à concevoir, mais c'était très 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 répandu, très répandu.
C'est quand même c'est complètement enfin complètement fou. C'est en tout cas à notre époque actuelle, c'est vrai que ça paraît complètement incroyable et que les femmes
Oui,
le choisissent en fait.
de manière oui
Oui, c'est
consentie,
pas
hein.
oui, c'est ça.
Ah non, on force pas la recluse, hein, parce que sinon ça joue pas.
Ben non, sinon ça fonctionne pas, hein. Bon, ok, donc option couvent mais béguine, hein, tu préférais.
Ouais, plus béguine qu'au couvent.
Je comprends ça. Je comprends ça. Alors, et toi,
Eh
une petite
ben,
question.
moi aussi j'ai une question sur les rois, tiens. Est-ce que tu préfères, et on va retrouver notre ami, Philippe IV le Bel, le roi de fer, ou Louis XI, l'universel aragne?
Bonne question. Philippe le Bel aussi.
Ouais, Philippe gagne.
Philippe le Bel aussi. Parce
Philippe
que,
gagne.
bah, comme tu l'as dit, c'est quand même le roi de fer. Il est quand même bah, impressionnant, quoi.
Il était
Impressionnant.
très beau aussi, hein. On a oublié de le dire, ça.
Voilà. Donc, un beau gosse,
Un beau gosse.
impressionnant,
Ouais.
un fin stratège.
Que Louis XI est hyper moche, par contre. Très,
Il est
très,
comme
très
un
moche.
pou.
Ah
Bon,
ouais.
après, enfin, ouais. Et puis moi, c'est vrai que j'admire beaucoup toujours bah, l'intelligence, quoi. L'intelligence, c'est quelque chose qui, voilà, qui me fascine. Bah, comme tu
Louis
le dis
XI a une
aussi, hein.
grosse intelligence politique, hein. C'est juste qu'il est, bah, il a des méthodes qui sont pas,
Discutable.
voilà, qui sont pas très catholiques, on pourrait dire. Je pense que voilà, bah, déjà il a la grosse dispute avec son père. Donc Louis XI, pour resituer, là, on est au XIVe siècle, on est juste après la guerre de Cent Ans. On a une partie du royaume de France qui est encore anglaise, hein, qui est encore en possession anglaise. Donc le papa de Louis XI, c'est Charles VI, et c'est le petit roi de Bourges, hein, c'est le roi de Jeanne d'Arc, pour
C'est
faire
ça,
simple.
c'est le roi de Jeanne d'Arc, c'est
Roi de
ça.
Jeanne d'Arc. Donc Louis XI, il hérite d'un royaume bah, déjà très difficilement parce qu'il se bat beaucoup avec son papa, ils s'entendent pas du tout. Il est très moche, c'est vrai que les gravures qu'on a de lui, le pauvre, il est pas gâté par la nature. En face de lui, il a l'héritier du trône d'Angleterre qui est Charles le Téméraire, qui est un super beau gosse, le vrai chevalier, etc. Donc bah, il a pas beaucoup de pauvres garçons,
Ouais.
il a pas beaucoup de trucs pour s'en sortir. Donc bah oui, il va devenir voilà l'universel aragne. Donc son truc, ça va être de tisser donc une
C'est ça,
araigne, c'est une
exact.
araignée, hein. Voilà, il va essayer de tisser vraiment sa toile pour bah, essayer de s'en sortir comme il pourra. Puis ça sera quand même un grand roi, hein, même s'il est
Mais
un peu une
enfin,
légende
Philippe le
noire,
Bel,
hein,
on
finalement.
impose, enfin, je veux dire, il a un
C'est
côté
différent.
plus. Oui, mais
Plus
bon, tu vois,
chevaleresque.
dans l'esprit, plus chevaleresque, enfin, voilà, plus je me séduis plus, quoi, on va dire.
Je peux comprendre, j'ai choisi moi aussi Philippe Lebel.
Ben voilà,
Sorte
maintenant,
Philippe Lebel.
on a les mêmes entre Philippe le Bel et Saint-Louis, mais bon, écoute, hein,
Mon pote Louis
ok.
XI n'aura pas trouvé grâce à ses yeux.
Non,
Non,
il me tente moins, même si
mais
effectivement on peut lui reconnaître quand même des qualités, mais c'est vrai que bon, il me tente moins. Alors, question de plus de vie quotidienne, dis-moi, pour te laver au Moyen-Âge, tu choisis plus d'aller à l'étuve ou tu te baignes dans la rivière?
Ça dépend à quelle époque du Moyen-Âge je me trouve. C'est toujours pareil, on est sur une période de 1000 ans, donc c'est très très long.
C'est vrai.
Si on est au Moyen-Âge, j'irai plutôt aux étuves, parce qu'on est dans l'héritage des pratiques romaines et ça m'intéressera plus d'aller aux étuves. Si je suis sur la fin du Moyen-Âge et particulièrement au XIVe siècle, bah là, il y a la peste, donc je vais plutôt aller me laver à la rivière.
Mais
Donc les deux.
même quand on y pense à
En tout
l'époque
cas, je
plus lointaine,
me lave.
c'est ça, tu te laves, moi aussi,
Ouais.
mais quand il pense, l'étuve, ça devait quand même être, enfin, je sais pas, un sacré bouillon de culture, quoi.
Je sais pas, je pense que justement, avant toutes ces problématiques d'hygiène, puis avant que ça devienne bah, ce que c'est devenu, donc en gros des bordels, hein,
Oui, c'est
je
ça, il
pense
y a
que
ça aussi, il y a ce
c'était.
côté-là un peu.
Voilà. Je pense qu'au début, vraiment, c'était l'héritage de l'hygiène à la romaine, et même ou de l'hygiène orientale, hein, puisque les croisés ont aussi ramené cette pratique hygiénique de l'Orient. Je pense que ça devait être assez sympa quand même, hein, d'aller faire un petit bain de vapeur, et puis un petit coup dans le frigidarium, et puis re la vapeur, se faire étriller. Non, ça devait être quand même assez sympa.
Ça devait être quand même assez sympa. Bon, ok.
Ouais.
Donc, à l'étuve au Haut Moyen-Âge.
Ouais.
Ok, ça marche. Alors, et toi, tu m'en as réservé d'autres?
Oui, et ben moi je vais te parler géographie.
Alors.
Donc au XIVe siècle, justement, en grande période de peste, tu préfères vivre en France ou en Angleterre?
Oh là là. Mais peste ou choléra à la fin, entre guillemets. Non, peste ou
Le
peste.
cas de le dire. Peste ou peste? Peste à l'anglaise ou peste à la française?
Eh ben écoute, tu me gâtes pas là quand même, hein. Alors je connais un peu la peste, enfin je connais pas mal la peste à la française. Je sais pas trop ce que ça donne la peste à l'anglaise en fait. J'ai pas trop
Je crois que c'est
étudié la
encore
question.
pire.
Ouais, c'est ça.
Alors,
Toi, tu es allé du coup fouiller pour tes recherches sur
Ouais,
ton roman,
sur
ton... Alors,
Thomasin.
on peut en faire une petite pub d'ailleurs. Du coup, tu as sorti dernièrement un roman sur la période justement du XIVe siècle
Ouais.
et de la peste. C'est quoi du coup? C'est
Donc,
Thomasin.
ouais, c'est
Thomasin.
les chroniques de Thomasin von Knorren. Donc, ça se passe dans l'est de la France. Et effectivement, c'est dans cette grande période de 1347-50 jusqu'à 1354, où c'est la première très, très grosse épidémie de peste qui frappe l'Europe, qui arrive par les comptoirs génois, italiens et puis Marseille, hein, principalement, et qui va se répandre dans toute l'Europe très,
Ben
très,
c'est
très,
ça,
très,
mais je
très
crois qu'on
vite.
est, on n'est pas mieux lotis ailleurs. Je crois que je reste dans ma petite Bretagne, moi, hein, dans mon petit
Ben, je
duché de
pense que tu
Bretagne,
fais
hein,
bien. Je pense que tu
parce
fais bien
que...
parce que tu es un peu loin des grandes routes commerciales. Tu es quand même un peu plus à la campagne. Donc, ouais, je pense que tu as une meilleure chance de t'en sortir si tu restes en Bretagne.
Je pense aussi, en
Bon
tout
choix.
cas, c'est moins pire, quoi. Mais je pense qu'à l'époque, enfin voilà, de toute façon, il n'y avait pas, enfin, comment dire.
Il y a 20% de la population qui est totalement immunisée contre le bacille de Yersinia pestis. Et si tu as la chance de t'en sortir, parce que ça arrive, en fait, il y a deux sortes, il y a deux formes. C'est ça que j'ai appris, surtout en faisant mes recherches, c'est que tu as deux formes de peste. Tu as la peste dite bubonique, hein, celle qu'on voit voilà, dans les films, hein, avec les ganglions qui gonflent
Le
et qui
truc
noircissent l'aine, la gorge, voilà, tous les ganglions lymphatiques, et avec beaucoup de fièvre et tout le tralala. Mais celle-ci, tu as plus de chances de t'en sortir que la peste dite pulmonaire. Donc, il y a cette forme de peste pulmonaire qui attaque les voies respiratoires. Et là, la mort intervient dans les 3 à 5 heures. Donc là, c'est vrai que tu n'as pas le temps de te... Et c'est comme ça te propage très vite, parce que les gens meurent
Oui,
très
les
vite.
gens toussent et
Et
puis oui.
ben bon, puis on sait pas on sait pas. Alors ça se transmet pas comme ça. C'est vraiment la puce du rat qui transmet le bacille de Yersinia
Oui.
pestis. Donc ce qu'on ne sait pas hein, forcément à l'époque, on pense effectivement, comme tu viens de le dire, que c'est aérien ou que c'est dans l'eau. Donc d'où les accusations qui seront faites contre les Juifs d'empoisonner les puits, etc. Et on a les premières occurrences du mot confinement à cette époque-là. C'est Guy de
Ben oui.
Chauliac, médecin de la faculté de Montpellier, qui va suggérer au pape de confiner les gens. Et Clément VII, pardon, va dire ben non, parce que déjà mes curés, il faut quand même, et mes prêtres, il faut qu'ils aillent confesser les gens ne peuvent pas mourir sans confession. Et les premiers à mourir, ben, ça va être les prêtres.
Et du coup, les gens, parce que alors, moi, je savais qu'effectivement, c'était la puce qui avait transmis, enfin, la puce du rat qui transmettait
Il y a
du coup
plusieurs
du
rats, ouais,
rat à
à l'homme.
l'homme. Mais une fois que l'homme a chopé, enfin, je veux dire qu'il y a un premier cas chez un homme, il se transmet toujours la puce ou
Oui.
après, c'est du coup quand
Non,
même.
non, après, mais c'est pas aérien, c'est vraiment par le toucher. Donc, par
D'accord.
exemple, la pratique médicinale qui consistera à inciser les bubons est une très mauvaise idée.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que du coup, oui. Après, au niveau du sang, enfin, je veux dire, oui. OK.
Oui, puis au bout d'un moment, il y a tellement de morts
Oui.
qu'on ne les enterre plus, les cadavres restent à
Ah non,
l'air,
ça devait être une
hein, on est
abomination.
dans les
Ah.
très grandes villes comme Strasbourg ou Lyon, hein, il y a les sergents porteurs qui passent en hurlant la nuit, sortez vos morts, hein, bon
Non,
voilà, on
mais
en est là. Et puis on
t'imagines.
va les jeter dans le Rhône, et puis voilà, enfin, l'eau
Ah
potable
non,
va
mais.
se retrouver contaminée, etc. etc. Enfin, c'est un cercle vicieux forcément, puisqu'on ne sait pas, on sait
Oui,
pas ce
on
que
ne sait
c'est
pas
en
d'où
fait.
ça vient, on ne sait pas qu'est-ce qui est l'origine du truc. Donc, forcément, on cherche, on essaye, on fait au mieux, hein. Je pense
Et
qu'il
puis
faisait
on a
au mieux,
peur,
mais c'est vrai qu'on
on a
c'est
très
la
très
trouille. Mais
peur.
tu m'étonnes. Là, tu as l'impression que c'est la fin du monde quand même, hein.
C'est probablement ce que tout le monde a pensé. Voilà, une ville comme Lyon qui perd 60% de sa population en 3 semaines,
Ouais.
c'est
En
juste.
3 semaines.
Ouais. Donc c'est fulgurant. Et effectivement, ça suit toutes ces routes commerciales, donc principalement les grands fleuves qui partent de Marseille et puis qui remontent ensuite voilà, Lyon, puis l'embranchement avec la Seine, etc. Donc voilà, la Loire, le Rhin, tout ça. Donc en Bretagne, t'es pas mal.
Mais c'est ce que je me disais. Mais bon, je
Une bonne
repense au
idée.
Covid, à notre Covid et tout. Mais mi mine de rien, avant vraiment de se généraliser, parce qu'après, la Bretagne a eu pas mal. Mais au tout début de l'épidémie de Covid, c'était encore une fois plutôt l'est de la France. Et je me dis d'ailleurs, souvent, d'ailleurs, dans les cas d'épidémie, c'est souvent la zone de Lyon et tout cet est de la France-là qui prend cher au début. Et la Bretagne reste quand même relativement épargnée. Et nous, pendant toute la première vague, mais. Il n'y avait quasiment pas de cas. Hein. Il n'y avait
Pas de
quasiment
cas.
pas de cas. C'était
Ben voilà.
hyper. Donc voilà. C'est pour ça que je me dis,
Ben pareil pour la peste.
mon petit duché de Bretagne, hein,
Pas
au
mal,
bord de la
ouais.
mer, tout ça, bon, j'y reste. Je
T'as
vais pas
bien
aller
raison.
tenter de voir ce qui se passe en Grande-Bretagne. Tu as des nouvelles du coup? Tu sais comment ça s'est passé la peste en Grande-Bretagne?
Ben, du coup, pas bien. Mais
Ouais.
oui, je crois que déjà, l'Angleterre à l'époque est en crise, hein, et je pense que ça n'a pas arrangé les choses. Donc là aussi, c'est Karen Maitland qui a fait un roman qui s'appelle La Compagnie des Menteurs, que je recommande à tout le monde, sur la période de la Grande Peste en Angleterre et ses ravages. Et il y a vraiment ce côté feu de paille qui suit. Donc on suit une compagnie de plusieurs personnages qui va fuir en amont la peste, en tout cas qui essaye. Et il y a vraiment ce côté grignotage, ce côté très qui est très angoissant de arriver dans les villes ou les villages et de se dire bah, est-ce qu'ils sont contaminés, est-ce qu'ils sont pas contaminés, on rejette l'étranger, on a peur de tout le monde,
Bah
quoi.
oui, non mais
Et
oui, non mais
se regarde d'un sale œil.
t'es forcé. Bon, eh bien écoute, voilà. Alors moi j'avais du coup une autre question pour toi. Alors c'est pas tellement un tu préfères. Un peu un tu préfères. Enfin, là, je t'ai pas proposé un choix entre deux calamités, là. Mais bon, c'était plutôt un choix. Si du coup, on t'offrait la possibilité de remonter le temps et d'assister à un événement du Moyen-Âge, un événement marquant, un événement qui, toi, t'as, lequel choisirais-tu voilà, un événement.
J'ai pas bien le choix, ce serait le siège de Montségur en 1243-1244.
Eh ouais.
Forcément, la chute de Montségur, ouais. J'ai hésité avec la prise de Jérusalem quand même. En 190. Mais ouais, non.
T'as écrit du coup. Alors
Montségur.
là, moi, je suis en train de faire ton alpha lecture. J'imagine que c'est ce qui nous attend dans ton roman à
Eh oui,
venir.
exactement,
La
dans le
chute de
prochain.
Montségur. Alors Montségur, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que Montségur, qu'est-ce que c'est que Montségur, Anaïs?
Bah, Montségur, c'est vraiment le dernier bastion, c'est pour ça que mon roman s'appellera La dernière citadelle, de la foi cathare et des seigneurs résistants du Languedoc, parce qu'il n'y avait pas que des cathares sur le POC de Montségur. Donc c'est un château qui est situé sur une espèce d'éminence rocheuse, donc qu'on appelle un POG en languedocien ou un pêche, donc un énorme pic qui a à peu près 900 mètres d'altitude, même un petit peu plus, je crois. J'ai plus la topographie en tête. Et il y a vraiment ce château qui est donc l'ancien château des seigneurs de Péray, c'est pas celui qu'on voit aujourd'hui, hein. Celui qu'on voit aujourd'hui, c'est la forteresse des ducs de Lévis, c'est celui qui a été construit par Saint-Louis après,
J'allais
justement,
te
après la
demander
prise.
justement si du coup il en
Mais
restait,
non.
enfin à l'heure actuelle.
L'archéologie nous permet de retrouver comment était plus ou moins la Caput Castri. Donc il y avait vraiment dans les textes, et notamment dans tout ce qui est dossier des inquisiteurs, et notamment de l'inquisiteur Ferrier qui était grand inquisiteur de Pamiers et qui a instruit les inquisitions de Montségur. C'est vraiment, il y a cette idée de Caput Castri, donc un espèce de donjon seigneurial, avec en dessous une citadelle fortifiée, mini Carcassonne, si tu veux, avec dedans le village en fait, hein,
D'accord.
vraiment sur ce pic. Donc les maisons construites à même la pierre, contre la muraille, enfin vraiment ce côté très très fermé. Et c'est la citadelle la plus imprenable de tout le Languedoc. Donc tous les cathares et les derniers représentants en tout cas de l'église cathare, même s'il n'y avait pas une église au sens catholique avec une hiérarchie très précise, puisque bah, ils reniaient toute cette partie-là de la religion, même s'ils étaient très chrétiens et très très pieux. Et puis bah, les seigneurs, donc les grandes familles des seigneurs du coin, donc les seigneurs de Péray, avec son épouse, ses filles, donc la fameuse Escarmonde de Péray, et puis sa mère qui était Marquette de Adelanta, qui était une parfaite, puisque les parfaits et les parfaites, alors ça c'est le terme inquisitorial, mais entre eux ils s'appelaient bonhomme et bonne femme, donc il y avait des femmes en religion dans la religion cathare, et les grandes familles de Lavelanet, les familles del Congost, voilà vraiment tous les derniers gros résistants du Languedoc en fait. Et Raymond de Toulouse, lui, en ce moment-là, il est un petit peu ambigu, il a essayé de se rebeller contre le roi, mais il s'est fait défoncer à Taillebourg, donc ça s'est pas bien passé pour lui. Son pote, le comte de Foix, il s'est retourné contre lui. Le malheureux comte de Carcassonne, Raymond Roger Trincavel, on l'a zigouillé et on l'a enfermé dans sa forteresse de Carcassonne et il est en train de crever de faim. Donc bon, il est un petit peu tout seul, le Raymond, mais bon, il a pas trop envie de se faire, voilà. Donc, il essaye de ménager la chèvre et le chou. Il essaye surtout de caser sa fille, parce qu'il n'a pas de descendant mâle. Il sait que c'est un peu cuit pour lui. Et sa fille, il va finir par la marier avec Alphonse de Poitiers, le petit frère cadet préféré de notre Saint-Louis. Donc, c'est comme ça que le duché de Toulouse, à la mort de Raymond, va finir dans l'escarcelle des rois de
Des
France.
rois de
Et donc,
France.
il reste cette citadelle, là, cette verrue en plein
Oui,
milieu, comme
je viens de
disait.
regarder, je viens de taper sur Google en même temps, du coup, effectivement, c'est un sacré pic. Enfin, je veux dire, si du
Impressionnant.
coup la citadelle était construite là-dessus, c'est effectivement, ça
C'est
paraît
pour ça
imprenable comme ça.
qu'il y a un siège de plus de 10 mois.
Ouais, c'est ça, hein, c'est un sacré truc. Et donc, ton livre à venir va
Voilà.
parler de ce siège, quoi.
Voilà, de ce
Ok.
siège, entre mai 1243 et mars 1244, qui se solde par un des plus gros bûchers d'hérétiques que la France ait connu, puisqu'il y a 300 environ cathares qui se jetteront d'eux-mêmes
Oh
dans le
la
feu, puisqu'ils ont
vache.
refusé d'abjurer leur foi, et donc parmi eux, une
Mais tu
bonne
nous
moitié
spoiles
de
la fin de
femmes.
ton livre.
Ah
Oh, déjà,
hein.
je pleure. Ok.
Heureusement, ça n'est jamais fini.
Bon. Ouf.
Voilà. Donc, ouais,
Ça
ce serait ce
promet
moment-là.
d'arracher des larmes. Ok. D'accord.
En tout cas, moi, ça me fait pleurer à chaque
Ah
fois.
bah tu m'étonnes, oui non mais Didier, j'imagine. Oh là 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 là. Bon bah j'ai hâte de voir tout ça, j'ai hâte de lire tout ça. Bon, est-ce que toi t'as, je sais pas où on en est de nos questions.
Il me reste une dernière question pour toi, effectivement.
Allez,
Donc, moi, c'est toujours un tu préfères, mais c'est un petit tu préfères un peu plus littéraire.
vas-y.
Donc, effectivement, ma question est, Mariella, est-ce que tu préfères faire uniquement des recherches toute ta vie et ne plus pouvoir écrire une ligne ou écrire sans faire aucune recherche?
Oh, bah facile. Je préfère écrire sans faire de recherche.
Ah, ça me fait
Parce
plaisir.
que non, là, c'est vraiment. Ça me fait même pas hésiter parce que non, franchement, je ne suis pas une chercheuse dans l'âme. Enfin, je fais des recherches pour étayer,
Ouais,
voilà, et pour
si,
du
si,
coup
tu fais beaucoup
étayer
de recherches.
des choses, on va dire, qualitatives. Mais j'aime quand même. Enfin, et tu vois, c'est un peu ce qui me pose problème dans l'écriture de mon roman. Là, j'ai envie de me lancer dans un autre projet qui me demande moins de recherche parce que je trouve que ça alourdit ma charge de travail et parfois que ça même freine ma créativité. Je sais que tu vois, bon, mon roman d'Heroic Fantasy, c'était sorti un peu comme ça. Tu vois, j'avais trouvé ça beaucoup plus facile en fait. Quand même, hein, écrire de l'historique, c'est assez contraignant, même si là, du coup, j'ai trouvé dans mon roman une façon de m'en détacher un petit peu. Parce que du coup, il va y avoir une petite parenthèse un petit peu hors. Voilà, enfin. Mais tu vois, voilà. Je sais qu'il y a des gens qui sont passionnés de recherche et qui, voilà, qui, bah, justement, les chercheurs en général, les historiens, c'est quand même leur fascination. Moi, je ne suis pas. Voilà, je suis plus écrivain que chercheuse, quoi. Même s'il y
Donc
a
tu garderais le
forcément.
flow et tu laisserais tomber les recherches.
Ben ouais, ben ouais.
Mmh.
À choisir, si je peux plus rechercher, je préfère être dans la pure créativité. Et peut-être que du coup, je produirai plus, en fait. Hein, parce que au final, je suis plutôt quelqu'un de très productif. Mais c'est vrai que c'est le cadre qui, des fois, me.
Qui te cadre trop, du coup,
Ben, un
qui
peu.
t'encadre trop. Ouais, non, mais je peux. Ah bah, je comprends ça totalement. Et ce que tu dis est très vrai. Bah, moi, quand j'ai écrit Thomas V, qui est vraiment de la médiévale fantasy, quand tu t'affranchis forcément, même s'il y a un fond vraiment historique, dès que tu t'affranchis de ce cadre-là, oui, ça coule tout seul, ça va beaucoup plus vite.
Ça va beaucoup plus
Donc,
vite.
je
C'est
comprends.
aussi c'est assez agréable en fait. Hein. Mais bon, en même temps, ce livre-là me tient à cœur, là, celui que je suis en train d'écrire, mais
Là, je comprends.
je
C'est ton
patine.
alpha et je comprends. L'histoire est passionnante.
Je patine un peu, mais
Bah,
non, mais c'est par manque de temps aussi. Hein. C'est par manque de temps, c'est
bien
parce
sûr.
que je cours trop de lièvres à la fois.
Non, mais on
Et
est
que
tous
c'est
là.
vrai que si je ne me concentrais que sur ces recherches et ce roman, tout irait bien. Voilà. Mais voilà. Trop de lièvres en même temps. Mais bon, on verra. Ça
Ouais.
verra le jour. Et puis j'ai envie, hein, j'ai envie. Donc voilà.
Bah, c'est
Mais.
l'essentiel. Si tu as envie, je pense que c'est quand même l'essentiel qui nous
Ben
pousse
oui.
aussi dans nos projets, c'est qu'il faut qu'on ait envie. Parce que si l'envie, elle disparaît, là, c'est sûr que c'est fichu, quoi.
Et toi alors Anaïs, si tu étais privée de recherche, recherche, enfin tu préfères du coup
Je
Je te
crois que je
contacte.
préférerais faire des recherches toute ma vie.
Ah ouais? Toi, du coup, tu préfères faire des
Ah, moi,
recherches
j'adore
toute
ça.
ta vie.
Moi, j'ai du mal à
C'est.
m'arrêter. C'est ça mon problème.
Ouais, c'est ça. C'est que du coup, un truc, on emmène un autre, qui en emmène un autre, qui en emmène un autre. C'est vrai que tu tires un fil et il y a toute une bobine qui arrive. C'est vrai que c'est fascinant, c'est passionnant, hein. Mais ouais.
Bah, si j'avais, pour le coup, on parlait de, tu parlais très bien de, très justement du temps qui nous manque et puis de courir plusieurs lièvres à la fois. Mais moi, c'est vrai que si j'avais du temps, non seulement j'écrirais plus, mais surtout, je pense que je ferais un diplôme de
Ouais,
d'histoire médiévale.
je me suis demandé pourquoi est-ce que toi tu t'étais pas lancé dans. Bon, après, tu aimes du coup le côté juridique et tout, mais c'est vrai que les
Oui.
recherches enfin, historiques, enfin, pourquoi est-ce que t'es pas devenue historienne en fait? Parce que tu as quand même une sacrée connaissance, quoi.
Ouais, allez, je suis une amatrice éclairée, on va dire. Mais ouais, non, bah, c'est des circonstances de la vie, hein, tout
Ouais,
simplement.
c'est
Moi,
pas.
je viens d'une famille qui n'est pas très aisée. Fallait que je paye mes études. Et effectivement, bah, c'est des études qui sont longues et qui, malheureusement, dans la société dans laquelle nous vivons, qui reste bah, capitaliste et qu'est-ce qu'elle est, n'offre pas des débouchés forcément rapides ou en tout cas
Ouais,
forcément
moi,
rémunérateurs.
j'ai eu ce choix à
Voilà.
faire un jour aussi.
Eh oui.
Je me souviendrai toujours. Bah, du coup, tu vois, on m'avait posé cette question que tu m'as posée en prépa lettres. J'ai fait du coup 2 ans de prépa lettres et j'avais
Je me
été
rappelle
du
encore.
coup. Bah, j'avais une prof qui était du coup médiéviste et qui m'avait un jour topé, qui m'avait dit je sens chez vous l'âme d'une historienne, vous voudriez pas du coup intégrer ma classe, parce qu'en fait il fallait que en première année du coup il fallait que je choisisse du coup entre une filière plutôt littéraire ou plutôt historienne, en fait du coup il fallait que je fasse un choix entre l'histoire et la
Et
littérature
la littérature.
et que je
Choix
me
très difficile.
Choix était très difficile et du coup c'est vrai qu'elle était venue me parler, elle m'a dit je sens chez vous quand même l'âme d'une historienne, j'aimerais que vous continuiez l'année prochaine et tout. J'avais réfléchi mais tellement longtemps en me disant mais en même temps je me disais l'histoire me passionne, c'est vraiment, mais est-ce que je vais pouvoir en vivre un jour, en faire quelque chose et du coup choix de la raison. Non, parce que
Et
j'aime aussi la littérature, mais du coup j'avais choisi la littérature. Et je suis allée faire des études de littérature du coup. Mais alors sans regret. Sans regret. Pour devenir orthophoniste au final, hein. Du coup, je suis.
Ouais, mais ça reste quand même lié. Finalement, il y a cette maîtrise des mots, il y a cet apprentissage de la
Oui.
langue qui reste quand même finalement très lié
Oui.
avec ton
Oui,
métier
c'est
actuel.
sûr qu'en plus, dans
Les
mon
mots
métier actuel,
sont, ouais, les mots
j'ai
sont
fait
toujours
le
là.
choix de me spécialiser dans la rééducation de la lecture et de l'orthographe et du
Ouais,
coup
donc,
d'amener toutes mes connaissances, on va dire, littéraires, de la
non, mais
langue,
ça te
enfin, ouais.
sert forcément.
Voilà, ça me sert vraiment toute cette histoire de la langue. Mais tu vois, j'y reviens encore à cette histoire de Moyen-Âge. Là, j'avais créé toute une formation autour, je suis en train de raconter ma vie, mais autour du mot. Mais du coup, toute l'histoire médiévale et l'évolution des mots et l'ancien français, mais m'a tellement servi et me
Ah
sert
oui, c'est
tellement
passionnant.
à aider les enfants. Parce
C'est
que
génial
du coup,
ça.
la petite histoire des mots, ils adorent en fait. Ils adorent
C'est
et
top.
faire vivre l'orthographe. Bah voilà. Mais du coup, j'arrive à
Si
joindre.
seulement j'avais eu quelqu'un comme toi quand j'étais enfant, je ferais moins de fautes d'orthographe.
Bah ouais, écoute,
Donc
hein.
c'est très bien, c'est magnifique ce que tu fais, c'est super.
J'essaye du coup d'allier mes vocations et du coup de faire rentrer de l'histoire médiévale et de montrer, voilà, comment est-ce que du coup en se rappelant de la petite histoire des mots, on peut justement se rappeler aussi de l'orthographe des mots, quoi. Et l'ancien français a une place assez importante dans l'orthographe qu'on a à l'heure actuelle. Alors le latin aussi, bien entendu, mais voilà,
Forcément.
c'est un autre
Voilà.
sujet.
Ben
Eh bien, écoute, on a fait du coup
voilà.
la petite question du jour, ce petit
Ouais.
épisode un peu rigolo. Moi, j'avais une petite dernière question quand même, parce
Allez.
que voilà, je me demandais quelle fonction est-ce que tu aurais aimé exercer, alors du coup, voilà, au Moyen-Âge, toi.
Quelle fonction ou quel métier?
Quelle fonction ou métier? Alors, en
Ah,
tant que
ça, c'est
femme, j'imagine
compliqué.
quand même, à moins que
Oui,
tu.
en tant que femme, mais bon, oui, j'aurais pu changer de sexe, ça pose pas de problème. Mais ouais, c'est vrai que c'est un peu plus réducteur. C'est pas évident comme réponse à donner. C'est vrai que les métiers sont très divers, mais
Oui.
j'ai souvent un petit personnage que j'aime beaucoup placer dans mes romans. Il y en a un dans La Dernière Citadelle, il y en a un dans Amoury, c'est Tisserand. Voilà, la corporation des Tisserands était une corporation vraiment très très prisée, très importante dans les villes. Et ouais, les Tisserands, en tout cas dans le sud aussi, étaient une corporation qui était très liée à la religion cathare. Donc ouais, j'aurais peut-être choisi Tisserands, si je pouvais choisir en tout cas. Mais
Oui, ça
j'aurais très
aussi.
probablement, sans
Mais
choisir,
là,
été
je te laisse le choix.
serve. Voilà.
On
Mais
aurait
ouais,
tous fini au champ,
Tisserands.
mais...
Parce que c'était un métier un petit peu au cœur de tout, au cœur des guildes, dans les villes, etc. Très accessible aux femmes, qui a un certain côté de créativité quand même. Donc, puis il y a ce côté, voilà, de manier les couleurs, etc. Je trouve sympa. En tout cas, j'ai souvent un petit personnage
Une petite
de
tisserande
femme,
qui traîne dans le
une
coin.
petite tisserande, ouais, qui est dans le coin.
Sympa. Bon, bah écoute, on s'arrête là pour cet épisode.
Ouais.
C'était super
C'était
cool.
très sympa.
Ouais,
Ouais.
franchement, c'était super cool parce que du coup, c'est à la fois, on parle du Moyen-Âge, on fait des petits points et en même temps, on parle un peu de nous et de nos goûts. Donc, et puis, voilà, on a lu l'histoire et le littéraire. Je trouve ça très sympathique. Eh bien, écoute, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Alors,
Ouais,
Anaïs,
merci beaucoup,
allez, à
Marina. Bye.
bientôt.
À bientôt.
Retrouvez toutes nos actualités en nous rejoignant sur Instagram sur les comptes Marielavesco, auteur, et The French Storyteller.